Grande joie de vous voir tous là. Il y a en même temps que des frères et sœurs, il y a des amis, il y a des proches, des voisins, et c'est une grande joie de vous avoir tous ici. On va enlever la réverbération. C'est un jour particulier parce que c'est la fête de la résurrection, la fête de la vie. Chaque année, au printemps, dans nos terres occidentales, les fleurs réapparaissent, les arbres qui semblaient morts reprennent vie, les bourgeons, les fleurs, tout vient comme symbole de cette résurrection. Lorsqu'on croyait que tout était fini, tout était perdu, eh bien la vie a pris le dessus, et c'est ce qui s'est passé exactement à la résurrection de Jésus-Christ. Il y aura pas mal de surprises parce que la résurrection de Christ était une surprise, donc ce n'est pas le culte habituel que nous avons tous les dimanches. Il y a un programme plus élaboré et nous nous réjouissons d'avoir des surprises, d'avoir la chorale et des chants et des lectures. Et donc nous allons commencer en chantant de tout cœur « À toi la gloire ». Et si vous voulez bien vous lever avec moi pour le chanter. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. La victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, son soutien, ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire. Je vais demander au pasteur Delpech s'il veut venir ici prier pour introduire ce culte.
Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous désirons te louer et te rendre grâce pour ces bons moments passés ensemble et pour ce que tu prévois pour nous. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette matinée, pour ce culte, pour la résurrection de Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous avoir réconciliés avec toi, de nous avoir parlé, d'avoir un jour eu pitié de nous et d'être venu à notre place sur la croix. Nous te remercions, Seigneur, parce que dans ce beau jour, eh bien, nous nous souvenons combien tu as usé de grâce et de miséricorde envers nous. Et nous voulons te donner gloire et te louer et t'adorer parce que tu en es digne. Ô Père Céleste, sois auprès de chacun d'entre nous. Dispose nos cœurs à te chercher, à t'aimer, à vivre pour toi. Que vraiment nous ayons de nouvelles pensées, de nouvelles dispositions. Que nous ne sortions pas de ce culte pareil que quand nous sommes rentrés. Mais au contraire, Seigneur, que nous soyons remplis de joie et d'espérance et de communion avec toi. Nous voulons te louer pour ta présence. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur, d'être avec nous. Ô Père Céleste, nous te remercions pour toi-même. Tu es notre plus grande joie, notre plus grande bénédiction. Tu es le don suprême et nous te rendons grâce d'avoir tant fait pour nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Dans notre pays, Pâques est très peu mentionné, très peu célébré malheureusement, alors que c'est le plus beau jour qui soit. Le cours du monde a été changé par ce jour de résurrection. En croisant mon voisin, Gérard, il m'a demandé, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est Pâques? Pourquoi il y a un S à la fin déjà? Alors, il y a un S à la fin parce qu'il y a deux Pâques, il y a les Pâques. La Pâque première, c'est la Pâque juive. C'est lorsque, eh bien, les Juifs ont été délivrés d'Égypte au temps de Moïse. Dieu leur a demandé de sacrifier un agneau, d'en apposer le sang avec une branche d'hysope sur les linteaux des maisons, afin que lorsque l'ange de la mort allait passer, leur premier-né soit épargné. C'était juste avant qu'ils ne quittent l'Égypte, à main forte et bras étendus, comme dit la Bible, à travers la mer Rouge. Et depuis lors, les Juifs fêtent cette Pâque, cette délivrance, cette rédemption, avec un repas, avec un Shabbat spécial, avec des réunions centrées sur la délivrance et sur l'agneau sacrifié. Et puis, il y a eu le temps de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a été arrêté, c'était l'époque de Pâques, justement, la Pâque juive. Il a pris ce repas de céder, ce repas de Pâques avec ses disciples. C'est là qu'il a institué le pain et le vin. Et puis, il est mort sur cette croix. Il s'est laissé crucifier. Il a rendu son esprit. Il a fait ce sacrifice au moment de Pâques. Il était l'agneau de Dieu, l'agneau de Pâques. Et après qu'il ait été tué sur cette croix, après qu'il ait été mis au tombeau, 3 jours après, le dimanche matin, il est ressuscité. Et donc Jésus a été certainement crucifié le vendredi et ressuscité le dimanche matin. C'est pour ça qu'il y a le vendredi saint et qu'il y a le dimanche de Pâques. Le lundi de Pâques n'a rien à voir avec la Bible. C'était pour que les chrétiens se reposent d'avoir festoyé la veille. Ce qui n'était pas forcément un bon témoignage s'ils avaient trop bu, par exemple. Mais le dimanche de Pâques, c'est le dimanche de la résurrection. Le dimanche matin, le Seigneur est sorti vivant du tombeau. Et c'est ça que nous célébrons ce matin. Nous célébrons la vie, la victoire. Nous sommes dans la joie d'avoir un Sauveur vivant. Il y a beaucoup de sujets de tristesse dans ce monde, mais il y a un sujet de joie inépuisable, c'est Christ ressuscité. On va chanter encore « Jésus-Christ vit ».
Nous racheter.
donné.
Et cette offerte en sacrifice est triomphant du jugement. Il est vivant. Jésus-Christ vit. Je chante sa gloire et par sa vie je vis aussi. Oui, je suis sûr, oui, sûr de sa victoire. Je n'ai plus rien à redouter, mon sauveur.
Je remercie aussi les jeunes filles qui nous accompagnent à la flûte. Je remercie Arnaud et Gina qui nous accompagnent. Alors nous allons avoir la lecture de la parole de Dieu, d'abord sur la crucifixion du Seigneur et ensuite sur sa résurrection. Je vais demander à Alain, et je le remercie, il a subi une opération il y a très peu de temps, mais il a tenu à être là.
Luc 23.
Voilà. 44. Normalement, c'est affiché derrière.
Pardon. Oui. D'abord, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux de voir qu'on a écrit ici Jésus est vraiment ressuscité. Parce qu'en ce moment même, en Russie où j'ai habité longtemps, lorsque les gens se croisent sur le trottoir, même s'ils ne se connaissent pas, ils se disent « Christos vaskries », Christ est ressuscité. Et ça paraît invraisemblable quand on habite Paris. Ça se passe comme ça, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, probablement même en Tchétchénie. Et les autres, même s'ils ne les connaissent pas, répondent « Vaistino vaskries ». En vérité, il est ressuscité. Voilà. Les Tchétchènes, c'est nous. Les chrétiens, c'est eux. Non, il ne faut pas être pessimiste. Nous sommes peu nombreux, mais c'est merveilleux et il faut espérer. Voilà le récit de la crucifixion si triste. Il était déjà environ la sixième heure Et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Jean 20, donc, oui, je sais. Chapitre merveilleux de la résurrection. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à sa tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, « si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ». 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen.
Merci. Je vais demander aux hommes de venir chanter. Je peux montrer l'image. Ah, pardon, merci.
Tonnera encore quand
tu nous ressusciteras de la mort. Unis au Père, l'ancien des jours, par l'Esprit Saint qui nous aide à jamais. De gloire revêtu de puissance et d'autorité. Nous vivrons pour toujours par sa mort, plus de mort, victoire de l'amour. Nous régnerons avec Jésus-Christ ressuscité de la mort. Sa mort, plus de mort, victoire de l'amour. Nous régnerons avec Jésus-Christ ressuscité de la
Oui, nous voulons louer le Seigneur parce qu'il a vaincu la mort. Et dans un instant, nous allons avoir une lecture des noms différents de Jésus-Christ. Dans la Bible, Christ, le Messie, le Seigneur, a plein de noms. Et la liste qu'on va vous donner n'est pas exhaustive, il y en a encore plein d'autres, mais on a pris un certain nombre. Et je vais demander au pasteur Del Puech de venir ici nous faire cette lecture, si tu veux venir.
Admirable, agneau de Dieu, alpha et oméga, avocat, bon berger, cep, le vrai, chef de la foi, chemin, commencement, conseiller, Dieu puissant, Dieu véritable, époux, étoile du matin, Fils de Dieu, Fils de l'homme, je suis, juste juge, lion de Juda, lumière du monde, maître saint et véritable, Messie, parole de vie, pierre principale, porte, prince de la vie, Prince de paix, prince des rois de la terre, rejeton de David, résurrection et vie, roi des rois, saint, sauveur, seigneur des seigneurs, soleil de justice, soleil levant, souverain berger, souverain sacrificateur, témoin fidèle, tête de l'Église, vérité, vie.
Merci. Voilà tout ce que Christ est. Il n'est pas simplement un homme qui a vécu il y a 2000 ans, qui est mort et qui aurait, paraît-il, ressuscité. Il est tout cela à la fois. Et ce n'est pas étonnant que dans la Bible, les apôtres disent « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. » Je vais demander maintenant à une sœur en crise de venir nous dire comment elle a rencontré ce Sauveur, ce Seigneur. Et c'est Julieta, si tu veux venir.
Alors, bonjour.
Oui, pardon.
Bonjour tout le monde.
Je te remercie d'être venu et pour donner ton témoignage.
Tu as une famille, tu as combien d'enfants ?
J'ai 4 enfants.
4 enfants. Oui. Et tu viens de quel pays au départ, à l'origine ?
Angola.
L'Angola ?
Oui.
Et qu'est-ce que tu fais comme métier ?
Je suis aide-soignante.
Très bien. Et est-ce que tu pourrais donc, Julieta, nous dire comment tu as rencontré le Seigneur Jésus ? Voilà, oui. S'il te plaît.
Donc, je viens d'une famille chrétienne. Et mon grand-père paternel, déjà, il était pasteur. Donc, il avait quitté l'Angola. Il est parti au Zaïre pour proclamer la bonne nouvelle. Et du côté de ma mère aussi, pareil, on a toujours été chrétiens de l'église baptiste. Et pendant toute mon enfance, j'ai toujours entendu parler de Jésus. Et j'allais à l'église, à l'école de dimanche. J'ai été baptisée. Et j'avais une grand-mère, ma grand-mère maternelle, avec qui on priait souvent. Parce que les week-ends, on allait souvent chez elle. Et on allait prier. Et vraiment, c'était vraiment des moments agréables. Et je disais toujours que... enfin, à l'époque, vraiment, j'étais sûre que j'étais chrétienne. Et puis, à un moment donné, on a quitté le Zaïre et on est rentré en Angola. C'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas pareilles. Parce qu'au Zaïre, bon, à l'époque où j'ai vécu au Zaïre, il n'y avait pas la guerre. Mais quand on est rentré en Angola, il y a eu la guerre. Et l'Angola était un pays qui venait d'être indépendant et c'était un pays communiste. Et à l'époque, bon, Jésus n'avait pas sa place, hein, dans les pays communistes. Et je me rappelle que même à l'église, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de gens. Tout le monde était marxiste, léniniste et tout. Et c'est en ce moment-là, les difficultés de la vie en Angola ont fait que j'ai commencé un peu à douter de l'amour de Dieu dans notre vie. Je me posais des questions, je disais, mais mes grands-parents m'ont toujours parlé de la guerre, mais à l'époque, c'était la guerre coloniale. Et maintenant, c'est la guerre civile. Aujourd'hui, on était ici, demain, on était là. La précarité de la vie et tout ça a fait que vraiment, j'ai commencé à dire, vraiment, le Dieu d'amour, vraiment, peut permettre cela. Et je me rappelle une fois, ma grand-mère maternelle, elle est venue du Zaïre en Angola. Elle a vu que j'étais devenue une jeune fille. Elle m'a dit, tu as grandi et j'aimerais vraiment que tu puisses un jour demander à Dieu de te donner l'homme de ta vie. Parce que moi, ton grand-père, je l'ai demandé à Jésus et Jésus me l'a donné. Et à l'époque, moi, je lui ai dit, toi, tu es d'une autre génération et moi, je suis d'une autre génération. L'homme avec qui je vais vivre, je ne le demanderai pas au Seigneur. Et ma grand-mère m'a dit, avec Dieu, on demande tout, même les petites choses de la vie. Alors, quelqu'un avec qui tu vas passer toute ta vie, il faut le demander au Seigneur. Mais je crois que c'était à l'époque d'adolescence et que j'étais un peu révoltée. Et je me suis dit que j'ai dit à ma grand-mère, ah non, ça jamais. Moi, le mien, je le choisis moi-même. Et bien voilà, que je l'ai choisi aussi. Je ne l'ai pas demandé au Seigneur. Et à l'époque, ma famille ne voulait pas de cette union-là. Ben, je me suis entêtée. Et puis après, on est venu en France. Et en France, vraiment, je remercie le Seigneur parce que j'ai eu des merveilleux enfants. Mais j'ai passé des moments très, très difficiles à cette époque-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de Jésus. Et qu'il fallait vraiment que je m'approche de Jésus. Et je continuais quand même à aller à l'église. Et c'est grâce aux paroles que j'ai reçues pendant que j'étais toute petite que j'ai commencé vraiment à m'approcher du Seigneur. Et c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que la foi, c'est quelque chose de personnel. C'est pas un héritage. Quelqu'un avait dit qu'il n'y a que des enfants de Dieu, il n'y a pas des petits-enfants de Dieu. La foi ne s'hérite pas. C'est vraiment un lien personnel avec le Seigneur. C'est en ce moment-là que j'ai commencé vraiment à beaucoup prier, à remettre vraiment ma vie entre les mains du Seigneur. Et en tout cas, le Seigneur ne m'a pas déçu. C'est vrai qu'il y avait des moments difficiles. Par exemple, j'avais des problèmes des papiers. Il fallait résoudre les problèmes pour avoir régulariser ma situation. Mais malgré les moments difficiles, et j'étais tout le temps en train de demander à Dieu de m'aider. Et le Seigneur ne m'a jamais lâché. Et je me rappelle d'une parole. Un jour, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets toutes ces difficultés? Pourquoi tu permets? Et le Seigneur m'a fait comprendre que même dans le désert, il m'a jamais abandonné. Il a toujours été là. Et c'est la parole qu'il avait dit aux enfants d'Israël que vos habits ne se sont jamais déchirés et vos chaussures ne se sont jamais usées. Et là, le jour, il les accompagnait avec la nuit et puis la nuit avec le feu. Et c'est là où je me suis dit que le Seigneur vraiment est bon. Et une fois, je suis allée pour les problèmes des papiers et il y a un monsieur qui m'a vu, mes enfants étaient encore petits, et il a dit, « Madame, dites à votre fils d'arrêter de courir. » Et je lui ai dit, « Mais monsieur, j'ai un bébé. » Et puis il y a un autre, il m'a dit, « Et vous croyez où ? Hein, il ne reste qu'à planter un arbre ici pour que vous puissiez tous y grimper. » Alors j'ai dit, « Mon Dieu, il m'a traité de singe ou de sauvage. » Et finalement, vraiment, j'étais révoltée. J'ai dit, « Seigneur, j'en ai marre, toujours nous, les Noirs. » La colonisation, l'esclavage, tout, j'en ai marre vraiment. J'étais vraiment en colère. C'était en hiver. Je suis sortie avec les enfants et je suis arrivée. J'ai pris le bus et j'avais la poussette. Comme j'avais deux, le plus petit aussi était, ils avaient un an d'écart, Sorel et Jacques. Donc le monsieur, le chauffeur de bus est venu. Il est venu m'aider. Il a pris la poussette. Il a monté la poussette dans le bus. Et puis il a dit, le bus était plein. Et comme j'avais un bébé, il a dit, « Monsieur et dame, si vous ne laissez pas la place à madame, je ne démarre pas. » Alors, je l'ai regardé, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, il ne comprenait pas pourquoi je pleurais. Alors, j'ai dit, « Vraiment, Seigneur, tu sais vraiment nous confondre. » C'est-à-dire que le Seigneur a voulu me faire comprendre qu'aucune race n'est ni bonne ni pire qu'une autre, qu'il y a des bons et des mauvais partout. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, je ne jugerai pas les gens par rapport à leur race ou par rapport... Bon, je n'avais pas cette habitude-là. Mais c'est ce jour-là, je crois, ce jour-là, sans papier, des difficultés, je crois que c'est ce jour-là où j'ai explosé. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que je n'avais pas à juger les gens comme ça, que je devais aimer tout le monde. Je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est vrai que les difficultés de la vie, ça ne manque pas. Mais en tout cas, je sais vers qui regarder. Et je sais qu'avec le Seigneur, tant qu'on remet notre vie entre les mains du Seigneur, les difficultés de la vie peuvent être là. Mais Jésus est plus fort que les difficultés de la vie et qui nous aide toujours. Et je voudrais terminer par cette phrase que j'avais lue quelque part. Et tôt ou tard, nous serons appelés à croire en Dieu dans la maladie, le chagrin ou la déception. Alors nous marcherons par la foi et non par la vue. Je crois que le Seigneur veut vraiment que nous puissions marcher par la foi et non par la vue. Merci beaucoup.
Et oui, la foi, c'est une vie. Ce n'est pas juste une théorie, une philosophie. Ce n'est pas seulement le dimanche matin qu'on a la foi. Ça doit se manifester tous les jours de la vie et jusque après la mort. C'est ce dont on va parler ensuite. On va chanter « Tu peux naître de nouveau », après quoi la chorale viendra.
De nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger, et repartir à zéro. De cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Qui peut recevoir la paix, tu peux recevoir la paix avec Jésus, ton berger.
Amen. Alors la chorale, si vous voulez bien vous avancer. Nous allons chanter « L'appel résonne ». On peut se lever pour le chanter.
Parole du Père, avant que force de ta voix. J'entends bien la terre et la mer et les cieux dire ta gloire. Seigneur, tu es le Créateur, tu es bon. La gloire pour chercher l'homme perdu, échangeant la joie du ciel pour les tourments de la croix. D'amour tu nourris la foule et tu calmes la tempête et tu te laisses maltraiter. Après 3 jours dans la tombe, tu sortis victorieux. Puis tu remontas dans le ciel pour régner auprès de Dieu, assis à la droite de d'amour et zèle.
Merci. Alors, si vous croyez que Christ est ressuscité, dites-le à votre voisin, retournez-vous et dites « Christ est ressuscité ». Si vous le croyez, sinon ce n'est pas la peine, mais je vous en prie. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces rapidement. Demain, nous souhaitons faire une sortie pique-nique. Alors, la météo nous annonce qu'il fera environ 15 degrés. Donc, je pense que c'est suffisant pour être dehors, mais qu'il faut être couvert. Et donc, tous ceux qui veulent venir au parc de Sceaux, amenez votre pique-nique. Prenez un peu plus pour partager avec les autres, c'est toujours sympathique. Et le rendez-vous, je ne sais pas où il sera, mais je peux être là, moi, à midi, ici, avec le van qui a 9 places. Donc, je peux déjà prendre des personnes. Donc, si vous voulez venir avec moi dans le van, venez me voir après le culte pour me le dire ou appelez-moi à la maison d'ici demain midi. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous à l'entrée principale, là où il y a le petit pavillon. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le parc de Sceaux, il y a l'entrée principale avec les grilles et un très joli pavillon. Et on peut se donner rendez-vous à cet endroit-là autour de 12h30. Voilà. Si vous avez des questions, venez me voir après. Et donc, on aura un moment, on va chanter, on va jouer et on va aussi partager les choses du Seigneur. Mercredi, l'étude biblique, comme tous les mercredis à 19h30. Dimanche prochain, le culte à 11h, avec le repas fraternel. Donc, les membres de l'Église, n'oubliez pas, on amène à manger et on partage tous ensemble la nourriture dimanche prochain. Et encore une fois, je souhaite la bienvenue à tous, et si vous êtes visiteurs particulièrement. Si vous n'avez pas de Bible, nous serons heureux de vous en offrir une. Donc là aussi, vous pouvez demander peut-être au pasteur Delpech qui vous donnera une Bible de là-bas. Et aussi, si vous avez des questions sur la foi, n'hésitez pas, même si on est très occupé, quand il y a une question sur la foi, c'est prioritaire, parce qu'on est là pour ça. Et donc, sentez-vous libre. Si vous avez même des questions difficiles ou dérangeantes, ou vous ne nous choquerez pas, moi j'étais athée, anticlérical, donc je sais ce que c'est de ne pas croire ou d'avoir des doutes. Et n'hésitez pas à faire part de vos questions. Dans un instant, les enfants aussi pourront passer à côté. Je crois que c'est à peu près tout pour les annonces. Avant qu'on chante, je vais chanter quelque chose qui s'appelle « De l'autre côté ». C'est un chant que j'ai trouvé en anglais, que j'ai traduit. Et qui parle de l'espérance du chrétien, de passer de l'autre côté. La mort n'est pour nous que ce rideau, et de l'autre côté, il y a l'éternité avec le Seigneur. Mais bien sur lecture, hein, sur la table de mixage. Ouais. Ah. Attends, je vais le lancer. Il est là? Peut-être il est parti, excusez-moi. D'accord. Je pense qu'il a laissé fermer. Côté, c'est l'éternité, pas d'heure ni de seconde, le temps s'est arrêté, la lumière remplit tout, et l'air est si doux de l'autre côté. De l'autre côté, il n'y a plus de mal, plus de vol, de mensonge, plus rien de commercial, plus d'abus, de violence, d'orgueil ni de souffrance. De l'autre côté, je n'ai peut-être pas vu le ciel, ce n'est pour moi qu'une espérance, mais sa promesse est réelle. J'ai son assurance, je peux voir Jésus me sourire et m'appeler jusqu'à lui, car mon nom est dans le livre de vie. Quand Dieu m'appellera, il me prendra là-haut, de l'autre côté. De l'autre côté, nous serons des millions, unis dans la paix, l'amour et la communion, consolés de nos maux, près de Jésus l'agneau. De l'autre côté, je n'ai peut-être pas vu le ciel, ce n'est pour moi qu'une espérance, mais sa promesse est réelle. j'ai son assurance. Je peux voir Jésus me sourire et m'appeler jusqu'à lui, car mon nom est dans le livre de vie. Quand Dieu m'appellera, il me prendra là-haut. Il n'y aura plus de pleurs et plus de larmes là-haut de l'autre côté. Seras-tu de l'autre côté? Voilà, la résurrection, c'est ça aussi. C'est le temps qu'on va passer dans l'éternité au ciel. Notre vie sur la terre est si courte. On va encore chanter deux strophes de Viens et Vois. Après quoi, il y aura les offrandes. Après quoi, un court message. Le message sera plus court ce matin.
Viens et vois, Maître le Sauveur, en croix. Viens et vois, Maître le Sauveur, en croix. Oh, comprends pourquoi, pas quoi, je tremble.
Dans la tombe, on va faire la suivante pour finir.
Viens et vois, Jésus est ressuscité. Viens et vois, Jésus est ressuscité. Oh, 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 comprends pourquoi. Je tremble, tremble, tremble. Viens et vois, Jésus est ressuscité.
Amen. Alors nous allons prendre les offrandes. Je vais demander à Gabriel et Andrew si vous voulez venir. Notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté envers nous et nous voulons donner ces offrandes d'un cœur libre et joyeux. Et merci de pourvoir aux besoins de tous. Amen.
Amen.
Alors les enfants peuvent partir pendant ce temps. Thank you.
puisse vous entendre.
J'avais mis la climatisation quelques minutes pour qu'on n'ait pas trop chaud. Je l'ai éteinte, donc vous aurez moins froid. Merci pour l'accompagnement. C'est le moment du message. Non, moi, je peux le faire, moi. Alors, voilà. Donc, sachez que ces messages sont filmés et sont diffusés sur le site internet de l'Église, ebbp.info, si vous voulez le revoir ou en voir d'autres. Et c'est disponible pour tous. Ma question ce matin, c'est si Jésus n'était pas vraiment ressuscité. Nous sommes dans un pays de sceptiques, de rationalistes, où l'idée de la résurrection paraît vraiment étrange. Il y a certains théologiens même qui, depuis la fin du XIXe siècle, ont écrit sur la résurrection de Jésus-Christ, notamment il y a des Allemands, comme Rudolf Bultmann, qui a écrit « Il est temps d'enlever les mythes du Nouveau Testament ». Et parmi ces mythes, selon lui, il y a la résurrection de Jésus-Christ. Il continue en disant « Nous savons bien que les hommes ne ressuscitent pas des morts. Si Jésus est ressuscité, c'est en fait qu'il vit dans la mémoire de ses disciples. Il est toujours avec eux dans leurs pensées. » Voilà ce que écrit un théologien qui ne croyait pas à la résurrection de Jésus-Christ. Et ce qui est étonnant, c'est que le Saint-Esprit, 2000 ans avant, avait anticipé tout ce genre de remarques. Et je vais vous lire quelques versets dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 13. « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, écrit l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Puisque la mort est venue par un homme, il parle de Adam, c'est aussi par un homme, Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Oui, le Saint-Esprit avait anticipé, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. D'ailleurs, je peux ranger ma Bible, je peux me rasseoir et nous pouvons tous quitter cette église. Ce n'est même pas la peine que nous continuions. On peut d'ailleurs arrêter le bail et cesser de nous réunir. Si Christ n'est pas ressuscité, toute église n'a plus lieu d'être. Car les églises chrétiennes, bibliques, sont fondées sur Jésus-Christ ressuscité. Bien sûr, il y a des églises qui l'ont oublié. Il y a même des églises qui prêchent qu'il n'est pas ressuscité. On appelle ça des églises libérales. Il y a des églises complètement mortes où on voit bien que Christ n'est pas ressuscité pour eux. Mais là où il y a la foi en Christ ressuscité, il y a une vie. Il y a des fruits, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des personnes qui étaient désespérées, qui retrouvent espoir. Des personnes qui étaient perdues, esclaves de péchés terribles et qui sont délivrées, purifiées. Il y a des gens qui n'avaient plus de sens à leur vie, qui trouvent d'un seul coup pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur vie. Il y a même des gens qui sont guéris de façon très surprenante par la puissance de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a pas d'évangile. Alors la Bible n'est plus qu'une morale, une belle morale. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, sois gentil, sois sage, brosse-toi les dents, comme dit la chanson. Mais le message de l'évangile n'est pas une belle morale. Le message de l'évangile, c'est un message de vie. C'est de la dynamite, comme on dit. Ça dynamite les préjugés, ça dynamite le péché, ça dynamite la noirceur de nos cœurs, et ça donne la vie. L'évangile est la puissance de vie pour ceux qui croient. Si Jésus n'est pas ressuscité, dit-il, votre foi est vaine, notre foi est vaine. À quoi ça sert de croire en quelqu'un qui est mort et enterré, qui ne peut plus rien faire pour moi? Pourquoi devrions-nous prier un Jésus qui est resté dans la tombe? Que peut-il faire pour nous s'il est toujours dans la tombe? Pourquoi vénérer quelqu'un qui est mort il y a si longtemps? Ce qui fait la différence entre le chrétien qui a la foi et toute autre personne, c'est qu'il a la foi au Seigneur ressuscité. La mort a été vaincue. Jésus est vraiment ressuscité. Nous n'avons plus à craindre la mort. Nous n'avons plus à craindre le jugement de Dieu sur nos péchés. Le jugement dernier, comme on l'appelle, parce que Christ est venu nous sauver par sa mort et sa résurrection. Croire en un mort qui est resté mort ne mène pas loin. C'est même pathétique. Mais croire en un mort qui est revenu à la vie, c'est extraordinaire. Est-ce que vous faites partie de cela? Est-ce que vous avez cette foi que Jésus-Christ est vivant, qu'il peut vous sauver maintenant? Ou est-ce que votre foi est vaine? Si Jésus n'est pas ressuscité, écrit-il, nous sommes de faux témoins. Là, il parle avec les autres apôtres qui ont vu Jésus pendant qu'il était sur terre, qui l'ont vu se faire arrêter, qui l'ont vu se faire crucifier, qui l'ont vu être mis au tombeau et qui l'ont vu vivant après être resté 3 jours mort dans la tombe. Et il dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous sommes des, on dirait aujourd'hui, des escrocs, des menteurs invétérés. Nous vous racontons des bobards. C'est vrai qu'en France, les hommes de Dieu ont une triste réputation de manipulateurs, de menteurs, d'hypocrites. Et il faut bien reconnaître que l'histoire donne raison à ces raisonnements. Quand vous regardez l'histoire de l'Église, il y a quand même beaucoup de choses qui sont laides, qui sont scandaleuses. Lorsque l'Église de Rome, au nom de Jésus, est allée massacrer les Indiens d'Amérique du Sud, lorsqu'elle est allée prêcher l'Inquisition, c'est-à-dire la guerre, la tuerie, le massacre, au nom de Jésus, avec des croix. Il y a même eu la croisade des enfants. On a enrôlé des enfants pour aller faire la guerre. Ce sont des choses scandaleuses, innommables. Et ce n'est pas digne de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus-Christ n'avait jamais demandé une chose pareille. Heureusement, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des chrétiens qui suivaient la Bible et les paroles de Christ. Et qui, eux, étaient pacifiques et même pacifistes. Et qui, eux, ont été persécutés parce qu'ils voulaient suivre la Bible. Il y a eu des faux témoins, c'est vrai, mais les apôtres qui ont écrit la Bible étaient des vrais témoins, des témoins oculaires. Ils ont vu, ils ont touché Jésus. Rappelez-vous ce qu'on a lu au sujet de Thomas. Quand on parle de la foi et de la résurrection en France, souvent, « Ah, moi je suis comme Thomas. Moi je suis comme Thomas. » Et ce que je réponds maintenant à chaque fois, c'est « Écoutez, je suis ravi. Je suis enchanté que vous soyez comme Thomas, c'est merveilleux. » Puis-je vous lire ce que Thomas a dit quand il a touché Jésus? Il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu » et il s'est incliné, il a adoré Jésus-Christ. Donc vous êtes dans ce cas, c'est ça que vous voulez me dire. Thomas est là. C'était un des disciples proches de Jésus quand même. Hein. Ce n'était pas un étranger de loin. C'est quelqu'un qui avait connu Jésus, il avait entendu parler, il avait vu faire des miracles. Mais quand on lui a dit « Jésus est revenu à la vie », il a dit « Non, non, ça c'est tout ce que vous voulez, mais non. » Et Jésus s'est montré à Thomas. Il est entré dans la maison sans passer par la porte. Hein. Et il a dit « Thomas, voilà, touche, c'est bien moi. Regarde, il y a encore les marques dans mes mains, dans mon côté. » Et Thomas a pu toucher de sa main. Il a pu voir le Seigneur ressuscité. Et il est un témoignage au cours des siècles que Jésus est vraiment ressuscité. D'ailleurs, tout le récit des évangiles et des actes révèle que les apôtres étaient incrédules. Quand on lit le récit de la résurrection, ce sont les femmes d'abord qui voient Jésus ressuscité, notamment la fameuse Marie de Magdala. Et elle revient dire aux disciples, « J'ai vu Jésus, il est ressuscité, il est vivant !» Et les disciples ont dit, « Écoute, arrête, vous les bonnes femmes, hein, je dis ça d'une façon vulgaire à la façon d'aujourd'hui. Hein. » Mais c'est ça, en gros, qu'ils lui ont répondu. Encore une histoire de bonnes femmes. Hein, tu as pensé, tu as halluciné. Et elle ne savait plus quoi dire. Alors, on a lu tout à l'heure hein, que Pierre et Jean sont allés au tombeau quand même, par acquis de conscience. Et ils ont vu la pierre rouler. Ces pierres, elles étaient faciles à rouler pour fermer, parce que c'était des pierres rondes et qu'il y avait une petite pente. Mais pour ouvrir la tombe, il fallait être plusieurs, parce que c'était très lourd. Pierre qui faisait une tonne parfois. Et la pierre était roulée, le tombeau était vide, il y avait les linges là, les bandelettes, tout étalé, et pas de Jésus. Et la Bible dit, il vit et il crut. À ce moment-là, les hommes, eux aussi, disent, mais il est vraiment ressuscité. Et Jésus ensuite s'est montré aux disciples, et la Bible dit qu'il s'est même montré à plus de 500 personnes à la fois. Et nul doute que ça explique ce qui s'est passé dans le livre des Actes. 50 jours après, il y avait la fête de Pentecôte, Shavuot à Jérusalem. Une grande, grande fête. Tous les Juifs de tout l'Empire romain sont venus à Jérusalem. C'était bourré à craquer. Et Pierre s'est levé alors qu'il y a eu un événement tout à fait extraordinaire, un vent impétueux dans la ville. Pierre s'est levé et a dit à ses confrères juifs, il a dit, « Vous avez crucifié Jésus, mais Dieu l'a ressuscité des morts. » Dire ça ou se tirer une balle dans la tête, c'était pareil. Devant une foule qui avait dit 50 jours avant, « Crucifie-le !» Oser se lever et dire « Vous avez crucifié Jésus et Dieu l'a ressuscité des morts. » Qu'est-ce qui a donné à Pierre cette audace folle? C'est la résurrection, c'est qu'il avait vraiment vu Jésus ressuscité. Ce n'était pas une hallucination. Et quand il a prêché ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville? Est-ce que les gens l'ont lynché? Non, la Bible dit au livre des Actes, chapitre 2, ils ont dit « Hommes frères, il dit aux apôtres, hein, que ferons-nous ?» Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous !» Et une foule de Juifs sont venus à la foi en Jésus, le Messie, Yeshua HaMashiach, comme on dit en hébreu. C'est la résurrection qui a fait ça. Si Jésus n'était pas ressuscité, franchement, quel message avons-nous à prêcher? Voilà, un jour, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit des belles paroles. Bon, bah, très bien. Mais qu'est-ce qui fait que le monde n'est plus le même depuis la venue de Christ? C'est sa résurrection qui a tout changé. Vous pouvez aller en Israël, vous pouvez regarder tous les tombeaux de Jésus, parce qu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas? En tout cas, il n'y en a aucun qui est plein. Par contre, on peut aller voir le tombeau de Mahomet. On peut aller voir le tombeau même de Bouddha, du Bouddha, qui est réparti dans plusieurs endroits. Ses os ont été répartis dans plusieurs endroits. Ses os sont là, les os de Mahomet sont là. Enfin, ça doit être de la poussière maintenant. Mais Jésus, il n'est nulle part. Nulle part. Si Jésus n'est pas ressuscité, il dit « Vous êtes encore dans vos péchés. » Et ça, c'est peut-être le plus terrible. Parce que si Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas en martyr. Ce n'est pas pour nous donner un exemple de bonté. S'il est mort sur la croix, c'est parce que c'était prophétisé qu'il devait mourir à notre place, pour nos péchés. Quand il est mort sur cette croix, il était, lui, le juste, il a pris nos fautes sur lui. Nous, les injustes. Et ces fautes, Il a été puni à notre place par la colère de Dieu sur cette croix. Et il est mort à notre place. C'est moi qui aurais dû mourir. C'est vous qui aurez dû mourir. Et Christ a accepté notre mort. Et c'est pour ça que la Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ, qui met sa foi en Jésus-Christ mort pour lui, est pardonné de tous ses péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Mais si Jésus n'était pas ressuscité, ça veut dire qu'il était un homme comme vous et moi. Il est mort, voilà. Mais son sacrifice n'a aucune valeur. Pour que son sacrifice ait une valeur, il fallait qu'il triomphe de la mort. Et il est sorti victorieux de la mort. Et c'est ça qui fait qu'il est le sauveur. S'il n'était pas ressuscité, il ne pourrait pas nous sauver. Il serait un homme comme un autre. Mais il est vivant, il a vaincu la mort, et nous ne sommes pas dans nos péchés parce que Christ a pardonné nos péchés. Et il dit, tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus aussi. Alors ça, c'est encore plus terrible. Tous les chrétiens qui sont morts dans la foi, si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien, ils sont restés morts comme des chiens, pour rien. Et il dit même, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais parce que quand on est chrétien, on renonce à certaines choses, on renonce au mal. Quand on est chrétien, on va à contre-courant, on accepte malheureusement d'être à contre-courant d'une majorité. Et il y a, pendant les siècles de l'histoire, des centaines de milliers de chrétiens qui sont morts pour leur foi, qui sont morts pour le nom de Christ. Tous les apôtres, excepté Jean, ont eu une mort violente parce qu'ils ont suivi Jésus-Christ. Tous. Ils sont morts. Est-ce qu'ils sont morts pour un mensonge? Est-ce qu'ils sont morts bêtement? Pour une escroquerie? Vous croyez qu'on meurt pour une escroquerie? Les escrocs, ils se sauvent au dernier moment. Hein. Quand ils voient que ça tourne mal, mais les apôtres, ils ont fait face à la mort. Quand on est venu les arrêter, ils ne se sont pas défendus. Pierre, quand on l'a arrêté, on l'a condamné à mort à la crucifixion. Ce sont les Romains qui l'ont arrêté. Et il a exigé d'être crucifié la tête en bas pour ne pas être crucifié comme son sauveur. C'est Polycarpe qui nous rappelle cela. Tous sont morts de mort violente. Paul a été décapité, qui a écrit cette épître que je lis. Si des chrétiens sont capables de mourir encore aujourd'hui pour leur sauveur, c'est parce que leur sauveur est vivant. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont la résurrection, qu'ils vont ressusciter, que leur vie ne se termine pas sur la terre. Maintenant, dit l'apôtre, Christ est ressuscité des morts. Nous le savons parce que nous avons ce témoignage de la Bible, des apôtres, mais aussi parce que nous avons une communion avec Christ. Maintenant, j'ai une relation personnelle avec le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, par la foi, par la prière. Notre pire ennemi, qui est notre pire ennemi? La mort. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire c'est la crise économique, le chômage, les hommes politiques, mon voisin, les islamistes. Non, mon pire ennemi, c'est la mort. Et on est tous égaux devant la mort. Les plus riches vont mourir aussi. Mais la différence, c'est que ceux qui croient en Jésus-Christ ressuscité, ont la victoire sur la mort. Quand ils meurent, ils continuent de vivre dans la présence de Dieu. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Nous avons tous assisté à des enterrements. Combien les enterrements sont difficiles à vivre, surtout quand c'est quelqu'un de proche, quand c'est quelqu'un de très proche. Et on pense à notre propre mort. À chaque fois, on ne peut pas s'empêcher. On se dit, un jour, ce sera moi, là. Enfin, ce sera mon corps. Comment faire pour vaincre la mort? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Est-ce que je dois faire du bien? Est-ce que je dois faire des bonnes résolutions? Non, la Bible dit que nous sommes irrémédiablement pécheurs. Le mal est plus fort que nous. Même quand on a un désir de faire du bien, le mal revient en force. Et on finit par ne pas faire ce bien qu'on voulait faire. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ, pour nous extirper du mal et pour nous sauver de la mort. Et je peux vous dire que quand on est chrétien, notre enterrement n'est plus pareil. Bon, on n'en a ça qu'une fois. Hein. ne peut pas faire de répétition. Mais les enterrements des vrais chrétiens ne sont plus pareils. J'aimerais que vous puissiez tous assister à l'enterrement d'un chrétien né de nouveau, qui a l'assurance de la vie éternelle. Il y a, bien sûr, une solennité, mais il y a une joie profonde. Souvent, ce chrétien a choisi ses cantiques. Il dit, je veux qu'on chante tel et tel cantique, et ce n'est pas les plus tristes qu'il a choisi. Des fois, c'est à toi la gloire, c'est des chants de louange. Et il y a une joie parce qu'on sait que notre frère ou notre sœur est maintenant dans la présence de Dieu. On ne se désespère plus, on n'est pas là à dire « Oh, c'est fini, c'est terrible ». Non, on sait où il est allé. Et on sait qu'on va le rejoindre si l'on meurt aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'avoir cette espérance? Et cette espérance est gratuite par la foi en Jésus-Christ. On n'a pas à mériter tout ça, parce qu'on ne peut pas mériter la vie éternelle. C'est trop élevé pour nous. C'est un cadeau du Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ est votre sauveur? Est-ce qu'il est votre Seigneur? Est-ce que vous croyez qu'il est mort pour vous et ressuscité pour vous? Il y a des témoignages ici, dans la parole de Dieu. Il y a le témoignage des chrétiens, on a entendu Julietta tout à l'heure, des chrétiens qui vivent avec Christ, qui savent qu'il est ressuscité et qui savent qu'ils vont le rejoindre après la mort. Ça change votre vie terrestre d'être en paix avec Dieu. Ça change complètement votre vie. Vous ne vivez plus dans cette crainte, vous n'êtes plus en tension, vous avez cette paix. Voilà, j'attrape une maladie, un cancer, peut-être que je vais mourir, mais je sais que je vais rejoindre le Seigneur, que le cancer n'est pas la fin, que la mort n'est pas la fin. Ce n'est pas le point là, non, il y a trois petits points et je ressusciterai et je vis avec le Seigneur pour l'éternité, dans sa gloire, dans son amour, pas juste comme un gaz, je ne me fonds pas dans le tout de l'univers, non, je vais vivre avec ma pensée, c'est le livre de Job qui dit « Je le verrai de mes yeux quand ma chair aura été détruite, je le verrai, le Seigneur. » Est-ce que vous allez voir le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Ne manquez pas cette occasion. Aujourd'hui, vous êtes venus et combien nous sommes heureux d'être nombreux ce matin pour se rappeler la résurrection de Christ. Mais ne manquez pas l'essentiel. Si Christ est ressuscité, c'est pour vivre avec vous et que vous viviez avec lui. Il veut intervenir dans votre vie. Il veut d'abord pardonner vos péchés et vous donner sa vie pure et sainte. J'aimerais laisser l'occasion maintenant à ceux qui sont désireux, qui sont prêts à prier le Seigneur, à lui demander de l'aide. Et on va s'incliner dans la prière. Ce n'est pas souvent que nous avons le temps de prier Dieu, de faire calme dans notre cœur, dans nos pensées, et de penser à cette mort qui nous attend, de pouvoir la regarder en face et de lui dire « Jésus m'a sauvé, tu ne peux plus rien pour moi, tu ne peux plus me faire peur, tu ne peux plus me décourager. Jésus vit en moi et je vis en lui pour l'éternité. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut tendre sa main vers le Seigneur, qui veut demander pardon pour ses péchés au Seigneur, qui veut faire la paix avec Dieu, une fois pour toutes? Vous pouvez regarder dans votre cœur à Jésus-Christ crucifié pour vous, par amour pour vous. Vous pouvez aussi regarder ce tombeau vide d'où Jésus est sorti vainqueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui, par la main levée, vous demandez la prière en disant « Priez pour moi, car je veux me tourner vers le Seigneur. Je veux qu'il pardonne mes péchés, qu'il me donne la vie éternelle. » Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cas ce matin? Simplement, vous levez la main pour que je puisse vous voir et prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un? pouvez la baisser. Seigneur, nous te louons parce que tu es le vainqueur, tu es la vie, la résurrection. Merci pour cette espérance qui est réelle, que l'on peut même toucher quasiment. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont levé la main, que tu répondes et exauces leur prière selon ta grâce. Et je prie, Seigneur, pour que chacun de nous ici soit en paix avec toi, puisse affronter la mort sans crainte du jugement. Seigneur, je prie que tu pardonnes nos fautes. Nous sommes tellement souillés, tellement sales dans nos âmes, dans nos pensées. Seigneur, je prie que ton sang purifie nos cœurs et que tu sois glorifié par des vies transformées. Je te loue pour Julietta, comment tu as changé sa vie et comment tu l'as gardée. Je te loue pour chaque chrétien ici. Et gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous allons juste terminer avec ce cantique, Victorieux en Jésus. Je vais demander au pasteur Delpech de se mettre devant le bureau, s'il veut bien. Et si vous voulez parler avec un pasteur, il se tient à votre disposition quand on aura fini de chanter. Vous pouvez aller le voir et parler en privé dans le bureau. C'est trop important pour passer à côté. C'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. C'est moi qui l'ai. On peut se lever pour chanter ce cantique victorieux.
Un jour j'entendis l'histoire d'un sauveur qui, dans sa croix, il donna sa vie sur la croix pour un pécheur comme moi. Parla des souffrances, du sang versé pour mes offenses. J'ai alors saisi en Jésus la grâce et le salut. Victorieux en Jésus, mon sauveur à jamais, il m'a cherché. A racheté par son sang précieux, il m'a aimé le premier, je l'aimerai à jamais. Il est mon libérateur, Jésus-Christ le Seigneur.
On va chanter la dernière strophe, donc la suivante. Voilà, celle-là.
Oui, mon sauveur me prépare une place au ciel dans la gloire. Où je vivrai pour l'éternité dans la félicité. Tout l'univers chantera la gloire de l'agneau mis en croix. Et je joindrai ma voix aux anges pour l'hymne de victoire. Victoria à Jésus, mon sauveur à jamais. Il m'a cherché, m'a racheté par son sang précieux. Il m'a aimé le premier. Il est mon libérateur, Jésus-Christ le Seigneur.
Alléluia, louez l'Éternel, il est ressuscité, il est vivant, et faites-en part partout où vous allez, à tous vos voisins, vos parents et tout ça, vos amis. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. On peut le dire ensemble, il est vraiment ressuscité. Amen, ce culte est terminé.